mercredi.
Voilà.
Méga combi, prime team.
Il faut espérer que toutes ces personnes ne sont pas là pour rien.
Oui, inspiré.
Ces temps-ci, d'après l'aide-soignante qui s'occupe de lui, il était particulièrement désorienté.
Je ne suis pas sûre qu'il le comprenne.
Oui, là j'ai bien compris. Oui.
Alors, les retombées de cette histoire.
En avez-vous pensé? Vous avez aimé?
Méga combi, prime time.
Pas mal, on a bien travaillé aujourd'hui.
Pas mal. Passe-moi les écouteurs.
Bien entendu.
Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
Inspire.
Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot.
Expire.
Salut. Vous connaissez tous.
J'espère que t'as passé un bon moment. Méga combi, c'est fini. Sois pas triste. On revient la semaine prochaine. Et si tu veux être en bonne santé, n'oublie pas de respirer. Allez, salut les petits loups.
Méga combi, c'est fini.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 3 minutes.
C'est l'heure du Canu Info. On m'entend ou quoi?
On t'entend.
Ah, parce que moi je m'entends pas, mais ça va. Et ce soir, on va commencer par parler de la ferme, de l'hypothétique fermeture de Fessenheim qui devrait être décidée demain, peut-être une bonne fois pour toutes, ou peut-être en réalité pas du tout. Et puis.
Ensuite, on aura Oula, attention, on aura de gros changements dans la police française. Tenez-vous bien.
Aïe. Et puis après, on parlera. On parlera encore des étrangers, quoi. Et de l'accueil. Alors, un nouvel épisode, peut-être, mais alors juste peut-être, le dernier se jouera demain sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ça va se passer à l'occasion d'un conseil d'administration d'EDF qui va se réunir et qui est censé théoriquement voter pour faire fermer une bonne fois pour toutes cette centrale nucléaire. On rappelle que la centrale nucléaire de Fessenheim est la plus ancienne des centrales nucléaires encore en service, qu'au moment de sa construction, il avait été prévu qu'elle fonctionne 30 ans et puis qu'elle soit arrêtée, que là, ça fait, depuis cette année, ça fait 40 ans qu'elle est en marche. On peut rappeler aussi qu'elle est... On reviendra un peu sur des histoires de panne et tout ça, mais on peut quand même aussi rappeler qu'elle est construite sur une zone sismique. Et voilà.
C'est
et
des visionnaires, les gens qui construisent les centrales.
Mais oui. Alors, le conseil d'administration d'EDF devrait se prononcer donc demain sur cette fermeture. Et alors voilà, est-ce que ce conseil d'EDF va entériner la fermeture de Fessenheim, qui est une décision qui a été, alors qui est une promesse de campagne de François Hollande. Bon, promesse de campagne de François Hollande, ça serait plutôt un signe que ça va pas se passer. Mais c'est aussi quelque chose dont on a reparlé il y a quelques mois à l'occasion de grosses négociations entre EDF d'un côté et l'État d'un autre côté, parce qu'à un moment, visiblement, les socialistes se sont dit « Tiens, on pourrait faire semblant d'aller dans la direction d'un truc qu'on avait promis pour voir ce que ça va donner. » Alors, vous allez voir, ils vont pas trop loin. Mais alors, voilà, ce qui va se passer demain, c'est que ce conseil d'administration, il y a 18 personnes dedans, il y a 3 groupes de 6. Et la décision doit être prise à la majorité. On sait qu'il y a 6 représentants de l'État et eux vont considérer que pour des histoires de conflit d'intérêts, ils ne vont pas voter sur ce coup-là. Des représentants des salariés qui, eux, considèrent que l'emploi, c'est le plus important. Et Fessenheim, ça fait bosser 2000 personnes, directement et indirectement. Donc, il vaut mieux que ces 2000 personnes ramènent un salaire à la maison plutôt que de garder vivable toute l'Alsace, une bonne partie de la Suisse, de l'Allemagne. Et tout ça. Et puis, il vaut mieux que ces gens ramènent un salaire à la maison, quitte à clamser pas très vieux, de sorte de vieux cancer. Mais bon, en même temps, mieux vaut vivre brèvement, mais avec de l'argent. Les 6 représentants des salariés vont voter contre la fermeture. Et après, il reste 6 représentants de alors, je sais pas exactement en réalité, mais des patrons, quoi. Et parmi eux, il y a le PDG d'EDF qui, lui, a une voix qui compte double.
Eh ben, normal.
C'est normal, c'est le PDG.
Sûrement parce qu'il embauche tout le temps.
Mais alors non, pardon, ça c'est les 6 administrateurs indépendants, parmi lesquels il y a le PDG d'EDF. Alors, on sait pas indépendant de quoi, hein, mais... mais alors voilà, eux, on ne sait pas ce qu'ils vont voter. Et c'est possible que ce PDG d'EDF, qui s'appelle Jean-Bernard Lévy, préfère surtout retarder le vote. Alors, une décision qui pourrait être prise, ça serait de dire non, mais en fait, le conseil d'administration ne prend pas la décision, mais confie cette décision à Jean-Bernard Lévy tout seul, quant à la date de fermer le truc. Jean-Bernard Lévy, dans ce cas, pourrait dire attendez, je réfléchis, laissez passer les présidentielles. Là, au présidentiel, en espérant que ça soit... c'est Jean-Bernard Lévy qui pourrait espérer. Hein, que, par exemple, Macron soit élu. Macron, il va kiffer... Macron, il kiffe le nucléaire. Il adore le nucléaire, c'est l'excellence française. C'est le truc qui fait de l'emploi, du machin, du truc. Alors, on va voir en termes d'excellence... ce qu'on dit, sortir du nucléaire. Donc, sortir du nucléaire nous rappelle d'abord la négociation qui a eu lieu entre le gouvernement d'un côté et EDF de l'autre pour arriver à ce que EDF veuille peut-être bien fermer cette centrale et les concessions qui ont été obtenues par EDF. C'est-à-dire que si on va dans cette direction, alors EDF n'arrêtera pas le réacteur de Paluel 2, qui est un autre truc, et réacteur qui pourtant a subi la chute d'un générateur de vapeur de 460 tonnes. Donc le générateur de vapeur s'est cassé la gueule, mais malgré ça, il faut quand même qu'on puisse utiliser ce réacteur, parce que quand même. Et puis aussi, vous voyez l'autre centrale nucléaire dont on parle pas mal, c'est parce que là on est en train de parler de la plus ancienne, mais il y a aussi la tellement plus nouvelle que c'est la future, celle de Flamanville. Alors celle de Flamanville, bien sûr, elle fait rigoler comme ça, vu que, alors j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais le coût estimé a été dépassé de plusieurs centaines pourcents.
Ouais, je sais, oui.
Il a été vraiment multiplié.
Par plus de 2, quoi.
Aussi que les travaux en sont à plus de 10 ans de retard sur ce qui était prévu. Et aussi que, de toute façon, on se rend compte que la moitié des pièces sont en réalité foireuses, ont été mal construites, mal forgées.
Et ce, en plus, alors que le EDF savait très bien, enfin notamment là, le truc dont tu parles, là, le, je crois l'espèce de, je crois que c'était l'histoire du dôme là, la semaine dernière, mais
ouais.
Qui y a une espèce de cage métallique, tout ça, et du coup la boîte qui a été prise pour faire ce truc-là, EDF savait qu'elle n'était pas à même de savoir de,
qu'elle n'était pas fiable. On s'est rendu compte entre temps que les certificats de conformité avaient été bidouillés. Enfin, du quand même super n'importe quoi. Et quand même, mine de rien, un peu inquiétant, parce que Flamanville, ça va être un truc vraiment gigantesque. Hein, l'EPR de Flamanville, le jour où lui va péter, ça va être, ça, les dégâts vont aller loin.
Puis surtout que ça va être une centrale nouvelle, quand on voit, par rapport à l'autre qui aurait dû fermer, qui est prolongée, puis prolongée, puis prolongée, on se dit que bon, là...
C'est ça.
Un peu la catastrophe.
Alors donc voilà, pour revenir à en quoi cette histoire de Flamanville concerne les négociations entre EDF et l'État, c'est que EDF avait jusqu'à une certaine date pour mettre Flamanville en route, autrement tant pis, on laissait tomber, enfin, légalement c'était ça, mais là l'État a dit allez s'il vous plaît, si on ferme Fessenheim, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous relaisser encore 3 ans de plus pour terminer le chantier de Flamanville. Alors, bon, ben bah voilà, ça c'est OK. Et puis après, l'État va filer une indemnité financière à EDF pour la fermeture de cette centrale. Donc, centrale qui déjà dure 10 ans de plus que ce qui avait été prévu au départ. Mais là, l'État dit, oui, mais si elle avait duré 60 ans, ça aurait pu rapporter tant. Alors, bon, en réalité, c'est pas du tout sûr que ça les aurait rapporté vu que le nucléaire coûte énormément de thunes et qu'elle fonctionne plutôt à perte. Mais si elle fonctionne pas, c'est aussi à perte, puisqu'il s'agit bien de 465 millions d'euros, qui sont en gros votre pognon, hein. Enfin, si vous payez des impôts. Mais tout le monde paye des impôts en réalité à chaque fois qu'on va acheter un truc. Donc, 465 millions d'euros qui sont pris dans votre poche pour être reversés à EDF. Pour le remercier de peut-être bien vouloir arrêter cette centrale. Alors bien sûr, ces 465 millions d'euros ne vont pas du tout servir à reconvertir les travailleurs qui bossent à Fessenheim. C'est aussi pour ça que du coup les salariés vont eux massivement voter contre l'arrêt. Alors EDF sera dédommagé, donc nous dit sortir du nucléaire, pour la fermeture d'une centrale non rentable qui cumule les pannes et qui ne fonctionne même plus actuellement. Puisqu'il faut quand même rappeler que Fessenheim a 2 réacteurs, le numéro 1 est à l'arrêt de toute façon suite à la détection d'une fuite. Ouais, c'est ça. Et le numéro 2 est à l'arrêt depuis juin 2016 et il est récupéré d'un générateur de vapeur suspect. Donc lui, il fait partie des pièces foireuses et pour l'instant, en tout cas, il n'est pas autorisé à redémarrer, heureusement. Et donc, demande de sortir du nucléaire, est-il acceptable d'indemniser EDF pour l'arrêt d'une centrale qui, de toute façon, a atteint sa fin de vie? Donc voilà, les réacteurs ont dépassé 40 ans alors qu'au départ, ils étaient prévus pour 30. Alors, si le gouvernement se décide à appliquer ce à quoi il s'est engagé, il lui sera encore possible de publier un acte qui abroge d'ici la fin du mandat présidentiel, donc il ne reste pas des tonnes de temps, mais il en reste un petit peu, l'autorisation d'exploitation de la centrale. En réalité, le gouvernement peut juste le décider. Mais ils ne font pas ça, ils négocient à fond. Ils négocient en s'excusant un peu, au lieu de dire « non mais en fait, on arrête ces conneries ». Mais donc, si ça se trouve, ça pourrait bien être ce Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui fixera lui-même la date. Et donc, en tout cas, le communiqué de sortie du nucléaire termine par « vieillissante, plombée par les pannes, équipée d'une enceinte de confinement trop petite et située en zone sismique et en contrebas du Grand Canal de l'Alsace, Fessenheim doit être fermée immédiatement pour des raisons de sécurité évidentes. Ce sont les populations qui risquent de faire les frais des marchandages d'EDF. »
Alors attention, info exclusive, si jamais vous nous écoutez à Paris via internet, nous vous prévenons, hein, la police et les agents de la sûreté de la RATP peuvent désormais contrôler, fouiller, palper, inspecter les bagages et pourquoi pas harceler et frapper sans motif et ce quel que soit le comportement d'une personne dans le métro. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un arrêté qui vient de la préfecture de police de Paris. Oui, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des fouilles, à des contrôles d'identité et Et ce, donc, sans qu'ils aient besoin de se justifier. Cet arrêté sera reconduit au jour le jour. Hein. Bon, bah voilà. La préfecture de police indique que cette décision vise à rassurer les usagers des transports. Alors, nous voilà rassurés. Hein. Bon, dans le concret, on voit pas trop ce que ça change. Deuxième gros changement. Alors là, par contre, c'est pour...
C'est pour le moment contrôler, fouiller, harceler et frapper sans raison, même si apparemment, c'est pas complètement dans l'arrêt. C'est pas non plus très, très nouveau, disons que là, c'est juste précisé.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on continue sur les précisions, puisque là, ça va être le port de la cagoule hein, dans la police, puisque 80 000 cagoules viennent d'être livrées aux flics de France. Alors attention.
Ne pas confondre avec une burqa.
Exactement. Et comme vous les, par exemple, ils n'ont pas besoin d'appliquer à la lettre les petits panneaux qu'il y a dans les préfectures et les trucs avec marqué la République se vit à visage découvert. Bref. Mais ces cagoules, hein, précise le ministère, ne sont pas les cagoules avec juste deux trous pour voir les yeux, c'est avec un ovale hein. Comme ça on peut voir le nez, enfin une partie
le
du
haut
nez.
Du nez,
on voit pas trop ce que ça change, mais c'était très important pour le ministère de l'Intérieur de préciser ça. Donc voilà, ça fait un moment qu'il la réclamait et comme on sait en ce moment hein, quand même la tendance est plutôt à leur accorder ce qu'ils demandent sans trop de freins. Alors pourquoi pas une cagoule, hein, serait une note interne encadre bien entendu son utilisation qui doit être exceptionnelle et que le travail à visage découvert doit rester la règle et que bien sûr les agents sont encore obligés de porter leur matricule. Si vous voyez cette série de chiffres impossibles à retenir qui est écrit tellement petit que pour pouvoir la lire on doit tellement se rapprocher que c'est déjà risqué un outrage. Alors bon, bien sûr tout ça est relativement symbolique, vous l'aurez remarqué, que ce soit pour les fouilles dans le métro ainsi que ses contrôles où bien sûr personne n'avait quand même sérieusement l'impression que les flics avaient la moindre difficulté à contrôler qui ils voulaient. Et si le port de la cagoule était plus restreint avant, rien n'empêchait non plus les flics d'enfreindre cette règle sans être pris par leur hiérarchie. Regardez les interventions des flics en banlieue ou des baqueux pendant les grosses manifs avec, vous voyez là notamment les grosses manifs à Nantes, on a vu plein de baqueux avec une espèce de foulard en forme de tête de mort. Voilà, donc ça c'était pour les changements de la police en période électorale quand même.
Rendre la France inhospitalière pour dissuader les personnes qui y cherchent refuge et veulent construire leur vie ou qui juste la traversent en direction d'autres pays, tel est le principe de la politique du gouvernement. Cela commence sur le sol italien avant même l'arrivée en France, mais quand même à l'approche de la frontière, notamment à Vintimille. Cela se continue le long d'un axe qui conduit à la frontière britannique où les autorités françaises jouent pour le compte du Royaume-Uni le même rôle que les autorités italiennes jouent en amont pour le compte de la France. Un nœud important sur cette route, Paris, est un point de focalisation de la frontière est un point de focalisation à la frontière britannique, Calais. Les exilés sont les premiers à subir cette politique faite de violations des droits et violences, de harcèlement policier, d'arrestation et d'expulsion, de destruction d'effets personnels et de tout ce qui peut servir d'abri. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque à Vintimille, trois bénévoles ont été arrêtés par la police italienne alors qu'ils, attention, ils faisaient un truc hyper dangereux, ils distribuaient des repas aux exilés. Ouf. Du coup, c'était des Français, ils ont été renvoyés en France, ils ont été remis à la police française et contrôlés. Un autre bénévole français est passé en procès le 17 mars. Il est dans l'attente d'un verdict qui sera rendu le 27 avril. Il avait pris une famille soudanaise dans sa voiture. À Paris, le harcèlement policier contre les distributions de petits déjeuners aux alentours du centre humanitaire ouvert par l'État et la mairie de Paris, Porte de la Chapelle. Alors voilà, c'est une interdiction des distributions de nourriture qui est annoncée par l'adjoint communiste au maire du 18e arrondissement, en accompagnement des dernières destructions de bivouacs et campements. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de distribution de petits déjeuners? On a un peu plus de précisions sur un site qui s'appelle Paris d'Exil. Donc voilà, un campement de rue, le dernier qui était relativement visible à Paris, a été évacué le 15 mars dernier devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les personnes ont été mises à l'abri, comme on dit, et le balai habituel a fonctionné, police, homme en blanc, pelleteuse. La fin de la trêve hivernale, c'est sérieusement une des raisons qui ont été données, va s'accompagner d'une interdiction de distribuer de la nourriture dans le quartier Pajol. Cette décision a été réaffirmée lors du conseil de quartier de la chapelle Max Dormoy par l'adjoint au maire du 18e, donc communiste, en charge des affaires sociales, ils disent, de l'hébergement d'urgence, donc l'hébergement d'urgence c'est les gens dehors, et de la lutte contre les exclusions. Donc ce gars a bien expliqué que ça allait être interdit de donner de la nourriture à des gens qui, pour le coup, commencent à avoir du mal à s'en procurer. Monsieur Briand, c'est son nom, a même annoncé que les choses allaient s'accélérer sous peu. Comme un triste écho de la situation à Calais, que ce monsieur Briand avait pourtant vivement dénoncé. Donc quand ça se passait à Calais, il trouvait que ça craignait à fond. Quand ça se passe dans son arrondissement, il trouve que quand même ce qu'il craint, c'est le fait qu'il y ait des étrangers qui traînaillent et qui éventuellement mangent. Alors, la veille du jour où l'article que je vous lis a été écrit, alors même que le collectif Petit Déjà Flandre distribuait des petits déjeuners, des agents de la mairie de Paris sont intervenus pour démonter un banc dans cet endroit. Ils démontaient un banc parce que cet endroit est rempli de migrants. Parisiens, parisiennes, attention, bientôt vos rues n'auront plus de trottoirs, car c'est bien connu, les trottoirs attirent les migrants. Des centaines de personnes continuent à subsister dans la rue, largement disséminées dans l'ensemble du 18e arrondissement et autour de la porte de la chapelle, et de manière bien moins visible dans toute la ville, et il y a en ce moment beaucoup de mineurs sans aucune solution, bien que des réseaux d'hébergement solidaire subsistent, et qu'une asso qui s'appelle Utopia 56 paye régulièrement des mises à l'abri temporaires à l'hôtel. Alors voilà, devant des situations comme ça, bon, entre autres, hein, là, enfin, ça fait vraiment des trucs un peu dingues, quoi. Mais là, on a un week-end de mobilisation, le week-end dans 10 jours, le week-end des 15 et 16 avril. Ça va se passer à la frontière franco-italienne cette fois-ci. Et alors c'est organisé par des tonnes de gens qui viennent de tonnes d'endroits, bon, principalement en France, puis un petit peu en Italie. Un week-end pour soutenir les personnes migrantes et pour dénoncer la situation de traque et de répression à la frontière franco-italienne. Partout en Europe et à ses frontières internes et externes, les migrants et migrantes se heurtent aux dispositifs militaro-policiers des États qui contrôlent, enferment, violentent et expulsent celles et ceux qui tenteraient de traverser leur territoire ou, voire pire, de s'y installer. Mmh. Alors bon, c'est ça, c'est aussi que l'Europe passe son temps à pourrir des Viktor Orban et des gens comme ça qui sont vraiment dégueulasses avec les migrants, mais qu'à la fin, quand on regarde ce que font les pays présentables de l'Europe, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence, en réalité il y en a une, mais c'est vraiment une différence de degré et qui est des fois pas si gigantesque que ça.
Voire de couches, enfin pas pour toi, mais en tout cas voire de couches de vernis aussi que tu mets sur des décisions.
C'est ça aussi, ouais. Effectivement, c'est que la Hongrie enferme systématiquement les gens qui demandent l'asile. La France ne le fait pas parce que ça coûterait beaucoup d'argent, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle ne le fait pas. Et la France enferme énormément de gens dans des centres de rétention et établit des moyens de méga-contrôle. La France loge aussi des demandeurs d'asile dans des foyers où la police peut très souvent rentrer quand elle a besoin de venir les chercher, par exemple. Alors après, il y a certaines structures qui s'y opposent, mais la plupart des structures, et en particulier celles qui sont financées par l'État, donc qui dépendent de marchés publics, ouvrent grand leur porte aux policiers qui viennent chercher des gens. Des gens, je veux dire, qui viennent chercher juste pour les expulser. Là, je parle pas de criminels. Bon, je continue cet appel à la mobilisation. À la frontière franco-italienne, frontière qui a été rétablie en 2015. Bon, vous voyez, c'est Schengen, il n'y a pas de frontière, mais 2015, au moment de cette histoire de crise des migrants, la frontière a été rétablie. Et donc, les migrants arrivent en masse autour de Vintimille pour tenter le passage, qui est de plus en plus difficile, par la vallée de la Roya ou par Menton et ses environs. La traque des forces étatiques européennes très intense a déjà coûté plusieurs vies. Pour les migrants-migrantes arrêtés, c'est la déportation, même s'ils sont mineurs, même s'ils demandent l'asile. Pour les soutiens, c'est la répression administrative et ou judiciaire, les procès se multiplient. Alors, en ce moment, c'est vraiment des tonnes de procès et parfois pour vraiment avoir distribué de la nourriture, quoi. Pour l'instant, la solidarité et la résistance sont possibles. À Vintimille ou ailleurs, elle a pris diverses formes. Campement, passage massif en force à des moments, donc des soutiens qui vont en Italie et qui, avec des migrants, décident de passer la frontière à des tonnes de gens, comme des centaines de gens. ou au contraire passage au compte-gouttes aidé par des personnes solidaires, des manifestations, des actions diverses. Même si ces initiatives ont parfois été réprimées, elles montrent qu'il est possible, en tout cas pour l'instant, d'ouvrir des brèches de liberté et de solidarité dans cette forteresse européenne. Et donc voilà, mobilisation les 15 et 16 avril, mobilisation pour surtout visibiliser la situation à la frontière franco-italienne et à ses alentours, pour s'organiser ensemble, quel que soit notre statut administratif, c'est-à-dire en gros les Européens ou les gens qui peuvent être en Europe légalement, et puis ceux qui théoriquement ne peuvent pas, pour dénoncer et combattre la répression généralisée. Échanger autour des différentes réalités et des stratégies de lutte, et puis prendre le temps de la rencontre pour se mettre dans la perspective d'action commune pour briser l'Europe forteresse. Bon, tout ça va se passer dans un endroit qui s'appelle Fleiosque. Alors, si ça vous intéresse de voir précisément, il faut surtout chercher le texte sur le site marsinfo.org, Mars comme Marseille. Mars-info au pluriel.org enfin en tout cas voilà, si vous tapez mobilisation internationale à la frontière franco-italienne dans Google, vous allez aussi trouver tous les détails. Alors il y a tout un programme de discussions et de machins à faire le samedi, et le dimanche c'est direction la frontière avec tout le monde.
Et on peut que vous inviter à lire un article qui se trouve sur le site migreurope.org, et du coup là c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur les pressions qu'exercent les pays sur d'autres pays, et là c'est plus particulièrement l'Allemagne et l'Italie qui exerce une pression assez forte sur la Tunisie pour pouvoir accepter n'importe quel migrant ou réfugié sur son territoire, pression auquel la Tunisie refuse que la Tunisie refuse. Voilà, tout à fait, merci. Voilà, donc c'est un article que vous pouvez retrouver sur migreurope.org qui s'appelle « Le naufrage du droit d'asile, des pressions intolérables sur la Tunisie ». Et c'est en deuxième ou troisième sur la première page.
Écoutez, il y a des jours où on a plus ou moins de choses à dire, il y a des jours où on est aussi plus ou moins nombreux à dire des choses. Aujourd'hui, par exemple, c'est un jour moins. Comme vous pouvez le remarquer au fait qu'on va d'ores et déjà se barrer et continuer notre vie. Vous laisser avec de la musique pendant 34 minutes.
Et pouvoir retrouver Idée Noire, a priori, hein, bon, ils ne sont pas encore arrivés, mais bon, en même temps on finit en avance. Du coup, Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Ciao, à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Bum, 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 bum.